Bonjour à tous. Alors, il y a une valeur aujourd'hui qui est exaltée plus que toute autre, la liberté, n'est-ce pas? Et la lettre de Paul aux Galates, qu'on étudie depuis quelques semaines déjà, a été appelée par plusieurs l'épître de la liberté, la lettre de la liberté. Je pense à juste titre. Et le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, et encore dans ce thème-là, il y a une opposition entre deux régimes, celui de la liberté et celui de l'esclavage. Et il se pourrait bien que, dans ces quelques versets, Paul mette à plat notre conception de la liberté et même celle de la religion. Ce que désire Paul, c'est que nous soyons libérés par Christ de l'esclavage et que nous restions libres. Alors, l'épître aux Galates que nous étudions depuis quelques semaines, c'est une épître qui a été écrite, une lettre qui a été écrite par Paul à des églises de Turquie, des églises qu'il avait fondées, et c'était des églises principalement de païens, c'est-à-dire de personnes qui étaient des non-juifs, et qui avaient reçu l'évangile, mais au bout de quelques temps, il y a des personnes qui sont venues, des nouveaux venus qui sont venus annoncer quelque chose de plus. Ils sont venus dire, il faut aussi respecter la loi rituelle, les lois de Mosaïque, les lois de l'Ancien Testament. Par exemple, la circoncision, ou les règles alimentaires, ou encore certaines fêtes, le sabbat. Alors, ces faux enseignants, pour attaquer le message de Paul, ici ont pris de trois façons. En fait, c'est trois façons classiques pour attaquer un message. Il s'agit déjà de discréditer le porteur du message, et ça, c'est l'objet des deux premiers chapitres de Galates, où Paul va principalement dans ces chapitres, il va se défendre sa mission, son apostolat. Dans les deux chapitres qui vont suivre, ça va être plutôt la défense du cœur lui-même du message. Si un message est faux, nul doute qu'il n'a pas besoin d'être reçu. D'une part, attaquer son auteur, ensuite attaquer le cœur du message, et ensuite, dans les deux derniers chapitres, et là ça va être à partir de la semaine prochaine, ça va plutôt être les conséquences du message. Si un message est dangereux ou qu'il a des conséquences néfastes, on suppose que c'est un mauvais message. C'est un peu comme ça que se répartit l'épître aux Galates. Nous, on est à la fin aujourd'hui, à la fin de cette partie où on va être dans le cœur du sujet, peut-être le cœur théologique de ce sujet de Galates. Donc il va falloir vous accrocher. Le temps est court et Paul est quelqu'un qui va très loin dans ces textes. C'est profond. Notre texte, c'est donc le chapitre 4. Et en fait, il est constitué de parties assez distinctes, si tu veux passer, voilà, que j'ai décidé de nommer ainsi. Alors, le verset 1 à 7, on va voir un trajet de l'esclavage à la liberté, que j'ai sous-titré la joie d'être fils. Le verset 8 à 20, un retour de la liberté à l'esclavage. Et un peu, c'était tout ça pour rien. Et enfin, la liberté et l'esclavage, un motif de l'Ancien Testament, un enseignement de la loi. Alors, nous allons commencer par lire le texte, puis je vais prier pour que le Seigneur ouvre nos cœurs. Dieu et Père, on veut te remercier pour ce beau message de l'Épître aux Galates, et on te prie qu'on puisse le recevoir aussi ce matin, en particulier ce que tu as à nous apprendre. Guide-moi dans ce que j'ai à exposer, et que ta parole touche les cœurs de chacun, qu'on sache aussi ce que tu attends de nous. Et comment tu veux, comment ça doit changer notre manière de te voir et la manière dont on interagit avec toi. Amen. Chapitre 4, verset 1. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par le père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu, comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui en réalité ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Vous ne m'avez causé aucun tort. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu, ou même Jésus-Christ en personne. Qu'est devenu votre bonheur d'alors? Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélé pour eux. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ça soit de manière constante, et non seulement lorsque je suis parmi vous. Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton, car je ne sais plus que penser à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Il y a là une analogie. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette esclave, mont Sinaï, cette Agar mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère, car il est écrit: Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or vous, frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Mais autrefois, le fils, conçu de manière simplement humaine, persécutait le fils né par l'intervention de l'Esprit. Et il y en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Je vous avais dit qu'il fallait s'accrocher. Jusqu'ici notre lecture. Abordons le début de ce passage, donc les versets 1 à 7, que j'ai appelé de l'esclavage à la liberté. En fait, dans le chapitre 3, on l'a vu, Mamie nous en a parlé à deux reprises. Paul a montré qu'on ne pouvait pas être justifié devant Dieu, être déclaré juste devant Dieu sur la base de la loi, en pratiquant des œuvres de la loi. Mais c'est Dieu qui avait donné la loi, et donc elle a un véritable rôle, un rôle utile et bon. Mais ce rôle, enfin, elle est utile et bonne dans le contexte où Dieu l'a prévu. Et il y a un verset, alors tu peux passer la slide, le verset 3, chapitre 3, verset 24-25. Il y a Paul qui nous explique en quelques mots quel a été le rôle de la loi. Il dit ça a été comme un gardien, comme un guide pour nous mener à Christ. Alors, comment la loi est un guide pour nous mener à Christ? Pour moi, il y a trois raisons majeures. D'une part, elle va montrer la sainteté de Dieu, à quel point il est pur, à quel point il est parfait. Ensuite, elle va montrer que finalement, par nos propres forces, on n'y arrive pas à atteindre ce niveau, à se hisser au niveau de l'exigence divine. Vous connaissez ce verset peut-être? Soyez donc saints comme moi je suis saint. Et Dieu est trois fois saint. Et troisièmement, elle annonce en prémisse, elle annonce la solution qui doit venir dans le Messie. Elle est le guide donc qui oriente vers Christ. Et le mot gardien, le mot guide qui est utilisé dans ces deux versets, c'est le mot pédagogue. Et alors, à cette époque, ça, c'était une signification particulière. Le pédagogue, c'était un esclave qui s'occupait de l'éducation des enfants. À l'époque de l'Empire romain, tout le monde pouvait devenir esclave, plus ou moins. Il y avait des guerres qui faisaient beaucoup d'esclaves, mais on pouvait aussi devenir esclave comme une sanction ou parce qu'on n'avait pas réussi à rembourser une dette. Donc c'était une condition, pas très enviable, certainement, mais très courante. Et là-dessus, c'est sur cette remarque que Paul va embrayer le chapitre 2. Il part de ce pédagogue pour développer son argument. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Vous avez vu le début du chapitre 4. Les esclaves, les enfants sont comme des esclaves. Aujourd'hui, on pourrait croire que c'est plutôt les parents qui sont les esclaves des enfants. Mais en tout cas, en tout cas, à l'époque, ça dépend. Hein. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. À l'époque, dans la loi de l'Empire romain, le père de famille, le pater familias, il avait un pouvoir absolu sur sa famille. Les enfants, en plus, étaient eux-mêmes sous l'autorité du père, mais qu'il les met sous l'autorité d'un esclave. Et à ce titre, quand bien même ils sont les héritiers potentiels, ils sont un peu comme des esclaves. C'est l'argument de Paul. Et l'image, c'est que Israël, bien qu'il était considéré comme un enfant de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, bien qu'il ait quelque part l'héritier, ça n'est pas vraiment visible à cause du pédagogue, à cause de la loi. Cette loi, en fait, elle nous montre, on a dit, la perfection de Dieu, et elle nous montre au moins enfin, nous montre nos fautes quelque part, ces fautes qui sont comme une dette qu'on doit à Dieu, qu'on doit payer à Dieu. Alors bien sûr, il y a un système de sacrifice dans l'Ancien Testament, mais des sacrifices pour des petites fautes ou des fautes d'inattention. Et on est alors coincé dans un système, si on reste dans cette logique-là, on est coincé dans un système où on a cette dette qu'on n'arrivera pas à rembourser. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu magnifique, mais inaccessible. Si on cherche à l'atteindre par cette loi désespérante qui ne fait que pointer la dette. Mais il y a un mais. Versets 4 et 5. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Dieu prend l'initiative. Ça pourrait être le résumé de la Bible. Hein. Dieu prend l'initiative d'envoyer son fils, né d'une femme, c'est-à-dire fait homme. Et ce fils va accomplir parfaitement la loi. Il est né sous la loi en tant que juif. Mais il va accomplir la loi, lui, il va être parfait. Et il va pouvoir libérer ceux qui étaient soumis à cette loi. Comment? En payant la dette par sa mort. Sa mort à la croix. Et alors, qui était soumis à la loi? Qui a été libéré? Ce sont les juifs. Et non seulement il a racheté donc ces pécheurs juifs, hein, c'est le mot pour libérer, il les a rachetés de cette dette, mais il va même plus loin, il les réconcilie avec Dieu et les adopte comme ses fils et ses filles. C'est la suite du verset 5. Il nous a permis ainsi d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Mais est-ce que c'est seulement pour les juifs? Alors, si on regarde le verset suivant, verset 6, puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Là, il y a un petit mot subtil, c'est qu'il est passé du nous les juifs, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, à vous. Il nous a permis d'être adoptés, et puisque vous êtes bien ses fils et ses filles. Donc il y a aussi les païens qui sont adoptés avec les juifs. L'adoption à l'époque romaine est aussi assez différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des parents qui vont avoir le projet d'adopter un enfant, en général assez jeune, enfin on essaie le plus jeune possible, bien souvent, pour l'inclure dans sa famille, pour un peu le secourir. À l'époque, on adoptait plutôt des adultes. En fait, le chef de famille, dont on a déjà parlé, qui avait un pouvoir absolu sur sa famille, notamment, on parle du droit de vie ou de mort, hein, et en particulier de déshériter, il avait souvent recours à l'adoption. Pourquoi? Éduquer des enfants dans une famille noble, ça coûte cher. Il faut, pour des filles, avoir une dot, pour les garçons, leur payer des études. Et puis, en plus, on ne connaissait pas vraiment leur potentiel. Est-ce qu'ils seraient à la hauteur de ce qu'a été le pater familias avant eux? Et c'est pour ça qu'on recourait à une adoption. Vous voyez, un homme déjà adulte, déjà bien installé. Et on l'a adopté pour qu'il soit l'héritier de la famille, du pater familias. Ça paraît un peu bizarre aujourd'hui, hein, on n'est plus dans cette logique-là. Mais c'était si courant que beaucoup d'empereurs ont procédé comme ça. Le César Auguste, par exemple, a été adopté par Jules César dans son testament, pour donner un peu. Donc après sa mort. Système très différent. Et donc le fils adoptif était choisi et ne pouvait être nié cette fois-ci. Et c'était donc un grand privilège. C'était de pair, bien sûr, ça allait de pair avec l'héritage, du coup. Et ce verset 6, alors qu'on a lu « Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Alors si vous êtes comme moi, si vous êtes à l'affût des paroles trinitaires dans la Bible, en voilà une. Le verset 6 est trinitaire, c'est-à-dire que le Dieu de la Bible se révèle comme étant Père, Fils et Esprit. Et donc c'est toutes les personnes de la Trinité qui contribuent à ce processus d'adoption. Il y a le Père qui envoie son Fils, et le Père et le Fils envoient l'Esprit dans le cœur des fils adoptés et qui crient « Abba Père », ça tourne même. Il y a une contribution de toutes les personnes de la Trinité pour ce processus d'adoption merveilleux. Et maintenant, on n'est plus dans une logique extérieure de loi où on va devoir faire une loi qui nous est extérieure. Mais là, il y a cet esprit dans le chrétien qui crie « Abba, Père ». Le Dieu si grand, on a vu, si magnifique de l'Ancien Testament, complexe aussi, il nous invite à lui, par Jésus-Christ, dans une relation intime, familiale. Dans la relation d'un père avec son enfant, un père parfait. Tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Waouh ! On l'a chanté plusieurs fois ce matin déjà. Mais la suite est un peu plus noire. Alors on arrive dans la deuxième partie de la liberté à l'esclavage. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves, des divinités qui en réalité ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau des esclaves? Les Galates étaient auparavant des païens. C'est-à-dire, en fait, ils servaient des idoles, des dieux qui ne sont pas des vrais dieux. Et ça, on est assez familier cette idée. On a appris pour beaucoup à l'école qui étaient les dieux de l'Antiquité grecque. Zeus, Aphrodite, Hermès. J'ai noté aussi Dionysos, voilà, il y en a tout un paquet et ça fait un peu folklorique. On a l'impression qu'on ne peut pas se faire berner par ces dieux-là. Et pourtant, est-ce que ça a tellement changé? Des dieux, des idoles, de la puissance, de l'amour, de la beauté, de la prospérité, ça c'est Artémis ou Hermès, ou même de la santé, de la famille. En fait, je crois qu'on en a encore aujourd'hui. Tout ce qui va prendre la place de Dieu, qui va avoir une valeur ultime, le truc qu'on va chercher, par-dessus tout, ça, c'est une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu est une idole et on en devient esclave parce que on s'est jamais atteint, c'est jamais acquis. Et c'est pas vivant, enfin, c'est toujours extérieur. C'est jamais acquis, au contraire de l'héritage du fils adoptif. Et non seulement le chrétien connaît Dieu, c'est ce que nous dit Paul, vous connaissez Dieu, mais bien plus, Dieu vous reconnaît comme sien. Il nous marque du sceau de l'esprit. Avec ces mots, il dit « Celui-là, il est à moi ». Quelle absurdité, donc, de retourner à cet esclavage. Mais Paul dit « retourner ». Et là, il y a quelque chose un peu bizarre, je ne sais pas si vous faites la remarque aussi. Est-ce que les Galates retournent à leur paganisme? Est-ce que c'est ça qu'ils leur reprochent? Non. Leur hérésie, c'est de retourner à la loi de l'Ancien Testament, quelque chose de la Bible. Et pourtant, Paul utilise la même expression, c'est ce que j'ai voulu souligner ici. Les principes élémentaires sans pouvoir ni valeur. Il l'a appliqué aux Juifs, et il l'a appliqué aux non-juifs. Et en fait, ce qu'il veut dire, à mon avis, c'est que cette loi, si elle est pratiquée aveuglément, en cochant des rites à faire, en scrutant les jours, les mois, les saisons, les années, elle est vidée de sa force, elle est vidée, elle n'est pas dans son vrai rôle, elle ressemble à une religion païenne. On y va par nos propres forces. Vous connaissez ce proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et c'est ce qui arrive aux Galates ou à toute personne qui met la loi devant la promesse. On va regarder le doigt de la loi et pas ce que nous montre la loi. La loi nous montre nos péchés, notre besoin d'un sauveur. Si. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a quelque chose d'un peu tentant là-dedans. C'est facile de jeter la pierre aux Galates. Si on regarde la loi qui nous montre notre péché, c'est sûr, c'est dur. Mais si je regarde la loi, quelques petits traits que je sélectionne, et que je regarde mon voisin, je peux être tenté de me dire, ouais, je m'en sors pas si mal. On regarde lui, comment il est, il parle, il s'habille, comment il est colérique, ou comment il est apathique. Hein, toutes les cases qu'on veut cocher. Même à plusieurs, en plus, on peut avoir nos codes. Voilà. Nous, on pratique tout ça. Voilà. Par exemple, la scène. Je prends la scène. Attends. Nous, on prend la scène. On n'est pas comme eux. On se débrouille plutôt pas trop mal en comparaison. C'est tentant, ça paraît anodin, mais c'est grave. Paul est consterné. Vous avez vu la suite, il se dit, mais j'ai travaillé tout ça pour rien. Et dans l'épître aux Galates, Paul, il met une énergie qui fait presque peur, mais qui montre un peu la gravité du problème. J'ai appelé ça une épître coup de poing. Quand l'évangile est menacé, Paul ne fait pas de détails. Et je vous ai sélectionné quelques versets. Voilà, quelques expressions que Paul dit au fur et à mesure du texte au chapitre 1, on l'a déjà lu, mais si quelqu'un vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit et je le répète maintenant, qu'il soit maudit. Il avait dit ici même un ange du ciel, qu'il soit maudit. Au chapitre 3, aussi une expression qui est frappante parce que c'est un mot qu'il n'utilise qu'une seule fois dans toutes ses lettres, aux Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi. Au chapitre suivant, alors là, ça va très loin, même les traducteurs, ils traduisent pas toujours comme ça, mais c'est ça que ça dit. Puissent-ils même, en parlant des gens qui incitent à la circoncision, il dit, puissent-ils même se castrer ceux qui vous jettent le trouble parmi vous? Il y va vraiment, il est affecté et il a envie de les réveiller pour les rappeler à l'évangile. Mais dans notre texte, il est dans une autre dynamique. Il répond son cœur. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, au verset 12, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Paul, qui était autrefois le champion de la loi, quand il était juif, qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus, lui, il s'est tourné vers les païens. Il s'est fait comme un païen. Et eux, ceux pour qui il s'est fait comme un païen, eux, ils feraient le chemin inverse. Il leur précise, vous n'avez causé aucun tort. Il ne leur tombe pas dessus pour des raisons personnelles. C'est à cause de l'Évangile. Et il rappelle les circonstances heureuses de leur rencontre. C'est vraiment beau ce passage. Il avait contracté une maladie, peut-être qu'il y était allé pas volontairement. Alors il y a des discussions autour de quelle était sa maladie, peut-être un problème aux yeux, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Galates l'ont accueilli. Malgré son infirmité, ils n'ont pas eu de mépris. Ils l'ont accueilli avec joie, avec intérêt. Et maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. Ce faux évangile a brisé la belle relation qu'ils avaient avec Paul. Ça a cassé aussi leur générosité, qu'ils avaient sans jugement. Tout est à refaire. On voit déjà les fruits qui sont altérés. Et ensuite, Paul va s'attaquer au zèle de ces faux enseignants. Ces gens qui cherchent à les manipuler et donc qui veulent couper les liens entre Paul et les Galates. Et ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est ne vous laissez pas impressionner par le zèle de quelqu'un. Le zèle n'est pas un fruit de l'esprit. On en reparlera la semaine prochaine. C'est bien d'avoir du zèle, bien sûr, à condition que ça vienne d'une bonne intention. Et c'est ce que n'avaient pas les faux prophètes. Eux, ils voulaient les asservir pour les mettre en dessous d'eux, pour qu'ils soient zélés pour eux-mêmes et non pas pour l'évangile. C'est pas pour. On ne cherche pas à avoir du zèle pour gagner des points ou pour se faire bien voir, comme c'est souvent le cas lorsqu'on avait ces lois externes. Paul souffre vraiment de cette défection des Galates et il va utiliser une image très forte. Il se compare à cette femme qui pensait avoir fini d'accoucher et finalement elle se rend compte qu'elle doit recommencer quasiment depuis le début. J'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. C'est très fort. Bon, moi, je n'ai pas connu personnellement ça. Mais quelle angoisse, je veux dire, quand on arrive à la fin de son accouchement et qu'on se dit, il faut tout recommencer. Le bébé n'est pas encore là. Et si tous les responsables d'église avaient un cœur, un tel cœur pour l'évangile et pour leurs frères, je dis ça voilà, pour moi-même. Paul est ici un exemple de responsable d'église qui s'investit vraiment dans l'évangile. Alors priez pour que vos responsables aient un tel cœur, et eux, ils cherchent à se former, sachez-le. Donc voilà, priez pour cela. Et alors cet accouchement, quel est le nouveau-né? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça le nouveau-né qu'on attend de cet accouchement. Et encore une fois, ce n'est pas une religion extérieure que Paul veut voir chez les Galates, pas des signes de zèle sur des rites, etc. C'est Christ formé à l'intérieur, une transformation intérieure suivant le modèle parfait de l'homme parfait, Jésus-Christ. C'est ça la vraie liberté que Dieu veut dans nos vies. Quelque chose qui est complètement renouvelé. Alors, dernière partie, où est-ce que Paul va chercher tout ça? L'enseignement de la loi. C'est un peu l'ironie, alors il s'en prive pas non plus. Vous qui voulez vous mettre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Paul se base sur l'Ancien Testament et même le premier livre, surtout sur la partie Genèse 15 à 21, pour se baser son enseignement. Il va en quelque part saper l'argumentaire des faux enseignants, parce qu'il va prendre les propres textes et leur montrer quel est leur vrai sens. Pour bien comprendre cette partie qui, à vrai dire, à première lecture, est un peu difficile, il faut peut-être se rappeler quel est le réflexe un peu des religieux juifs quand on remet en cause leur doctrine. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé à Jean-Baptiste, c'est arrivé à Jésus. Il enseignait sur Dieu, et puis les religieux juifs qui se sentaient un peu remis en cause se disaient: nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Et quelque part, leur assurance était là-dessus. En Matthieu 3, verset 9, ça c'est pour Jean-Baptiste, et Jean 8, verset 39, ça, ils le disent même plusieurs fois dans Jean 8. Sauf que l'argument de Paul, vous dites fils d'Abraham, mais sachez qu'Abraham a eu deux fils. Dieu avait fait la promesse à Abraham en Genèse 15, on l'a déjà un peu vu, on commence à le voir plusieurs fois, hein, c'est tombé bien, on fait en plus une étude d'Ancien Testament en étudiant Galates. Il avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance innombrable alors qu'il n'avait pas de fils et qu'il était vieux. Alors, Abraham, en entendant ça, il eut foi dans cette promesse. Mais pourtant, avant que Dieu ne l'accomplisse, Abraham a voulu prendre les devants. Il a voulu faire avec ses propres forces, de manière purement humaine, comme le dit Paul, c'est-à-dire de manière charnelle, suivant les traductions. En accord avec sa femme Sarah, il a choisi de coucher avec Agar, la servante esclave, et il a eu un fils aîné, Ismaël. Ça n'était pas la promesse divine. Et le Seigneur, malgré tout, malgré ses vains efforts, il a accompli miraculeusement sa promesse en donnant à Sarah un fils, un enfant, alors qu'Abraham avait 100 ans. Cet enfant, c'était Isaac. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs manières dont l'Évangile est annoncé. On parlait des signes qui guidaient vers Christ dans la loi, dans l'Ancien Testament. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous connaissez cette phrase ici de Job. Il y a des prophéties directes. Alors ça, c'est la première sorte, alors qui est la plus facile. Il y a des prophéties directes, hein, qui parlent de Jésus, comme peut-être la plus belle, c'est Ésaïe 53, hein, où c'est vraiment... on l'a appelé le cinquième évangile, il faudrait dire le premier, mais bon. Ou des prophéties peut-être un peu moins claires, mais qui sont plus claires après que ça soit accompli. Je pense en particulier à Genèse 3, où il est dit: la descendance de la femme va écraser la tête du serpent, et le serpent va mordre le talon. C'est un peu difficile à discerner comme ça, a priori. Mais ensuite, il y a une autre manière d'annoncer la nouvelle alliance, c'est ce qu'on appelle les types. C'est un mot de Paul, hein, ces types, ces choses sont arrivées comme des types, ou à un autre moment, il parle des ombres des choses à venir. C'est-à-dire, ce sont des préfigurations providentielles des réalités de la Nouvelle Alliance. J'ai trouvé cette définition, je l'ai trouvée très juste. C'est-à-dire qu'il y a comme une analogie, comme le dit Paul dans ce texte. Par exemple, Paul, par exemple Joseph, vous vous souvenez, un des derniers patriarches, il a été vendu en esclave par ses frères et abaissé quasiment mort. Et quelque part, il est rétabli en tant que roi sur l'Égypte et il va pardonner à ses frères et les sauver de la mort, en particulier de la famine. Ça vous fait penser à quelque chose, non? Hein, c'est très similaire au parcours de Jésus, par exemple. Ça, on dit que Joseph est un type ou un antitype, hein, si vous voulez faire, si vous voulez faire très fort, de Jésus. Et il y a aussi beaucoup d'autres formes de préfiguration, par exemple le système des sacrifices. Dans la loi, il y avait ce système où on devait régulièrement faire des sacrifices. Les premiers-nés étaient rachetés en sacrifiant un agneau ou des colombes si on n'avait pas suffisamment d'argent. Et Jean-Baptiste nous donne la clé d'interprétation quand il voit Jésus en Jean 1, c'était peu après le passage qui a été lu ce matin. Il voit Jésus et il s'écrie: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il montre que ce système de sacrifice, des sacrifices d'agneaux, c'était une image de ce que Jésus allait faire. Et alors, dans cet épisode historique des deux fils d'Abraham, il y a une structure typologique. Ça fait instruit, hein? Dieu favorise la descendance de la femme libre, celle de la promesse, plutôt que la descendance issue des efforts purement humains par l'esclave. J'ai fait un petit tableau juste après, si ça peut vous aider, mais on arrive très facilement à le faire ce tableau hein, quand on le déroule. Alors, celle qui veut agir suivant ses efforts purement humains, Agar, hein, quand Abraham a voulu faire par lui-même, même si c'est. Agar, ça fait écho à l'Arabie, elle était égyptienne. Ça fait pas penser à Jérusalem, mais lui, Paul a le culot de dire, oui, non, c'est bien la Jérusalem terrestre, vu qu'ils sont sous l'esclavage, et ils veulent atteindre Dieu par leur propre force. Au contraire de la promesse qui est reçue en Jésus-Christ par la Jérusalem d'en haut. Et ça, ce sont les descendants d'Abraham selon la foi. Ça, c'est un renversement spectaculaire. Je pense que un juif légaliste qui lit ça, il est choqué, hein. Mais ce que ça dit, c'est que non, on n'est pas protégé par sa parenté. C'est pas parce qu'on est fils de la chair d'Abraham qu'on sera sauvé. Ce n'est pas à cause de mes parents ni mes grands-parents que je suis à Dieu, même si eux sont à Dieu. Et on ne peut être héritier que par la foi dans la promesse de Dieu. Et voilà, pour votre méditation. Paul va enchaîner, lui, avec une prophétie cette fois. Vous vous souvenez, la prophétie, c'est un peu plus direct. Il va citer une citation d'Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. C'est donc juste après le chapitre 53, 500, 700 ans même avant l'heure, le nouvel, donc l'évangile avait été annoncé. On parle de Jésus-Christ, et juste après, on parle de cette femme qui vient d'être libérée de l'esclavage et qui voit arriver plein d'enfants qui viennent, et elle n'a pas accouché de ses enfants, mais on lui dit, ce sont tes enfants. Et ça a été interprété, et ici par Paul, ce sont les nations du monde qui viennent grossir les rangs de la descendance d'Abraham. Des païens se joignent à la Jérusalem fidèle, restée fidèle, après l'œuvre de Jésus-Christ qui est décrite au chapitre 53. Paul va ensuite revenir vers Genèse et rappelle que Ismaël, le premier fils, persécutait Isaac. C'est-à-dire il se moquait de lui, il lui menait la vie dure. Le fils de l'esclave faisait la vie dure au fils de la promesse. Et il voit cette analogie aussi, elle était contemporaine pour lui, les premiers juifs. Les Juifs du premier siècle, en tout cas, persécutaient l'Église de Christ. Il est très bien placé pour le savoir, car il était dans ce cas-là aussi avant de se convertir. Ceux qui sont esclaves de la loi, ils ne peuvent voir ces fils de rien, ces païens, recevoir avec joie les promesses de Dieu et se réjouir d'être devenus des fils et filles de Dieu. Le zèle de ces faux enseignants, il risque de se transformer facilement en un zèle pour persécuter. Encore une fois, Paul était bien placé pour le savoir. On a dit tout à l'heure que c'était tentant de se mettre sous le régime de la loi parce qu'on sent, on peut se sentir supérieur aux autres. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, quand on s'arrête 2 minutes, c'est fissuré. En pratique, cette loi, elle montre notre péché. On est en insécurité. En apparence, on se montre bien. Mais on voit bien qu'à l'intérieur, on n'est pas à la hauteur. Le zèle est même suspect. Il a quelque chose qui est nerveux. Et ça se transforme très vite en violence. Le croyant, de son côté, en étant héritier du Dieu vivant, il est en sécurité. Il peut donc, à l'opposé, patiemment, avec amour, humilité, partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et enfin, une dernière citation où Paul va citer en fait Sarah, il cite l'Ancien Testament, renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Cette dernière phrase dans le contexte des Galates est très claire. Les faux enseignants n'ont pas à rester dans l'Église. Ils doivent être chassés. Alors là, parler de la responsabilité enfin des responsables de l'Église, il y a quelque chose de difficile à faire. Savoir confronter et parfois renvoyer des gens qui viennent détourner de l'Évangile. Voilà, c'est quelque chose que l'Église de Palaiseau a connu et connaîtra encore, parce que comme les persécutions ont été aussi prédites par le Nouveau Testament, les faux enseignants aussi. Et c'est à nous d'être prêts, d'être solides dans la loi même, être au clair et être solides dans la foi encore. Alors, j'arrive au bout. En résumé, on a vu que le régime de la loi était un esclavage sans espoir, qui rend zélé mais sans amour. Au contraire du régime de la promesse, qui est une délivrance, avec un héritage qui est garanti, et basé, au contraire, sur une relation d'amour familial avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves, ni d'une loi religieuse où nous chercherions à en gagner des points, ni même sous l'esclavage de l'idolâtrie ou de la débauche. Et nous, en général, on va avoir tendance à classer peut-être les gens avec, d'un côté, les gens convenables, et de l'autre, les débauchés. Ou alors, si on est de l'autre côté, on va dire, d'un côté, il y a les hypocrites et les bigots, et puis de l'autre, les personnes qui sont authentiques. Mais, selon la Bible, les deux sont piégés dans un esclavage, par la loi ou par le péché. Tous ont besoin d'être délivrés. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous demandez autour de vous ce qu'est la liberté, on vous dira « Moi, la liberté, c'est faire tout ce que je veux. » Et dans la loi aussi, il y a ce « je ». « Je vais y arriver par moi-même. Tout ce que je veux. » Et quand ça tourne autour du « je », ça tourne par où ? Je crois que c'est une illusion incroyable de croire qu'on peut faire sa vie comme si on était le début et la fin de toute chose, alors que nous-mêmes, la Bible nous le rappelle, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes pas autonomes, c'est une illusion. Et si nous voulons la liberté, la vraie liberté, celle qui se vit dans une relation où notre être est transformé de l'intérieur, c'est plus de l'extérieur, de ces idoles qu'on va chercher ou de cette loi qui nous impose des règles, mais c'est de l'intérieur qu'on va établir cette relation d'esprit qui, dans nos cœurs, crie « Abba, Père ». Voilà, c'est ça la véritable liberté. Abandonnons-nous à lui, faisons confiance à ses promesses. Que chacun puisse dire non seulement « Je connais Dieu, mais encore, Dieu me connaît. » Je vous laisse avec un dernier verset où Jésus traitait du même sujet en discutant directement avec des Juifs. Jean 8, versets 35 et 36. « Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. » Que le Seigneur donc nous libère de nos idoles et de nos fausses religions. Amen. Amen.